Indiens l'habitaient. Il y eut un premier métissage, puis très vite, à cause du traitement qui lui fut infligé par les conquistadors, la tribu originelle disparut. Pour avoir de la main-d'œuvre, on importa en masse des esclaves noirs. Il y eut un second métissage. En 1898, les États-Unis enlevèrent Porto Rico à l'Espagne. Ils y trouvèrent une population formée à la langue et aux mœurs espagnoles, mais qui était le fruit d'un profond brassage racial. Malgré cela, les Portoricains eurent désormais le droit, puisque leur île appartenait aux États-Unis, d'immigrer vers ce pays sans restriction aucune. Ce privilège, ils l'ont gardé, alors même que des lois de plus en plus dures fermaient les portes de l'Amérique aux étrangers. Si bien que, aujourd'hui, les Portoricains composent la dernière des grandes vagues humaines à déferler sur New York, ce havre séculaire des migrations énormes et misérables. Et ces derniers venus, dans leur dénuement, dans la peur que leur inspirait la monstrueuse ville inconnue, dans la conscience qu'ils prenaient aussitôt d'être méprisés, refusés, rejetés, sont allés par instinct et par nécessité à la partie la plus pauvre, aux taudis les plus affreux de Harlem. C'est là qu'ils s'entassent et qu'ils vivent les uns sur les autres, cité dans la cité, nation dans la nation. Les rues qui délimitent strictement ce pays clos sont autant de frontières rigoureuses. Et les habitants de Spanish Harlem, du Harlem espagnol, sont coupés de toute communication avec l'extérieur. Leurs voisins immédiats, les nègres eux-mêmes, les écartent avec dédain. Car eux, les noirs, ils parlent tous la langue de leur patrie. Ils ont donné aux États-Unis des acteurs, des chanteurs célèbres, des mélodies impérissables et, de plus en plus, des avocats, des diplomates, des médecins, des soldats, des journalistes, des écrivains de valeur. Ils comptent parmi eux des millionnaires. Bref, ils sont de vrais Américains. Tandis que ces étrangers, ces va-nu-pieds, ces portoricains, les spectateurs avaient repris leur siège. L'orchestre préludait au dernier acte de West Side Story. Au gré de la musique et des chants et des danses, les images du Harlem espagnol se levaient de nouveau dans ma mémoire. J'étais entré dans un bar, pareil à beaucoup d'autres répandus à travers New York, éclairé au néon, en plein jour, parce que la lumière n'y entre jamais, avec un comptoir chromé et une énorme machine à disques. Mais les disques n'étaient pas de jazz ou de rock'n'roll. Des guitares jouaient des flamencos, ou des airs mexicains, ou des chansons cubaines. Mais on voyait au mur une affiche de course de taureaux qui s'était déroulée au Venezuela. Et chez les hommes et les femmes, il y avait une sorte de chaude indolence, et entre eux comme une amitié, un pacte de sang. Quand ils me virent, il se fit un grand silence. Je n'appartenais pas au quartier, au Harlem espagnol. J'étais l'étranger, l'intrus, l'ennemi. Je m'assis aussi loin que je pus du comptoir, commander une bière. Les disques tournaient l'un après l'autre. La conversation reprit, on m'avait oublié. Ce lieu ne semblait pas appartenir à New York, mais à un port de la Méditerranée, ou mieux, des Antilles. Aucune des figures assemblées autour du comptoir n'était vraiment blanche, leur teint allant du beige au marron et du marron au brun très foncé. Et davantage encore les brèves ondulations frémissantes et si justes des corps qui suivaient le rythme de la musique trahissaient en eux la part du sang nègre. Mais lequel de ces portoricains en eût convenu? C'était leur honte, c'était leur damnation. Ils avaient été autrefois espagnols, ils étaient maintenant américains et ne voulaient rien savoir d'autre. La serveuse m'apporte une bouteille de bière. Grasse, la bouche épaisse, le nez camus, elle avait des cheveux teints en blond jaunâtre et une couche de crème profonde sur les joues. Et je me rappelais avoir lu que toutes les femmes caraïbes de l'île, alors qu'elles étaient enceintes, frottaient leur ventre de poudre de talc afin que leur enfant vînt au monde aussi blanc que possible. Parmi les hommes qui se tenaient contre le comptoir, on en remarquait un très jeune, dont les membres, la nuque, le torse, les épaules tressaillaient si fort au fil de la mélodie que chaque note semblait toucher un nerf à vif. Il avait les yeux vagues, absents, égarés. et il était visiblement sous une influence toxique d'une autre nature que celle de l'alcool, et parce que la couleur de son visage approchait du noir pur, je me souvins encore avoir lu dans le même livre que chez les adolescents du Harlem espagnol ravagés par l'usage de l'héroïne, la plupart avaient la peau très sombre. Je m'en allais bientôt. Il faisait dehors une chaleur humide, accablante. Était-ce ma solitude ou les impressions que j'emportais du bar, mais sous le charme exotique et les couleurs aimables du quartier, je découvrais une détresse effroyable. Des escaliers obscurs s'échappait l'odeur des logis surpeuplés et sans hygiène. Dans les cours s'amoncelaient des poubelles débordantes et à même le sol des piles de détritus. Près d'une bouche d'incendie s'ébattaient des enfants à demi sauvages, filles et garçons. Ils avaient libéré le jet d'eau et s'aspergeaient mutuellement, mais comme cette douche était interdite et que les policiers avaient la main lourde, d'autres faisaient le guet. C'était déjà une bande. Je débouchais sur une rue plus large et là un spectacle singulier m'arrêta. Sur le trottoir, une dizaine d'hommes jouaient aux dés et aux cartes avec passion. Contre le trottoir était rangée une longue, puissante et superbe voiture, le plus luxueux, le plus neuf des modèles américains, avec ses chromes étincelants, avec ses immenses ailerons de requin. Et sur le bord du trottoir, sur une chaise de métal pliante, était assis un portoricain, habillé de vêtements un peu voyants et très coûteux, qui surveillait les jeux d'un dur regard immobile. Et je pensais alors à ce qu'on m'avait raconté des grands trafiquants d'héroïne, de femmes et de jeux clandestins, que, dans ce ghetto de misère, de peur et de haine, enrichissait monstrueusement le besoin d'oubli. J'étais arrivé à Park Avenue. À cet endroit, elle n'avait plus rien du faste et de la beauté que lui donnent dans sa partie riche les gratte-ciels étincelants dont chaque alvéole est occupé par un bureau ou un logement de millionnaire. Ici, Park Avenue était entre des maisons sans joie, pauvres, tristes et sales. J'allais traverser lorsque je vis venir un taxi qui roulait vite. Je m'immobilisai pour le laisser passer. À cet instant, quelqu'un me saisit par l'épaule et me jeta presque sur la chaussée. Le taxi stoppa, tout frein grinçant. L'homme qui m'avait poussé était un blanc, pauvrement vêtu et ivre. Mais il me dit avec un geste de mépris souverain vers le chauffeur « Les Américains d'abord !» Je m'aperçus seulement alors que le chauffeur était portoricain. De la fosse de l'orchestre, la musique jaillit en crescendo. West Side Story approchait de sa fin tragique. J'oubliais tout pour la beauté violente du spectacle. Si l'on cherchait un équivalent français, il faudrait imaginer que Georges Auric ou Francis Poulenc, Roland Petit, ou Serge Liffard, Anouilh ou Salacrou ont traversé ensemble avec passion un drame lyrique dont le sujet serait la rivalité mortelle entre une bande composée de jeunes Algériens et une autre formée par des garçons et des filles des rues de Paris aux confins de la Goutte d'Or, et cela représenté au Châtelet ou à Mogador.
Et la misère n'a pas d'âge. Hein.
Bah oui.
En tout cas, c'était vraiment un fin observateur hein, de tout, de tous les pays, tous les endroits où il a pu aller.
Bah oui, oui, oui. Alors voilà, on vous a fait voyager un peu hein, entre les bas-fonds de New York, les rues de Kaboul.
Même, en une heure, un peu plus d'une heure.
Voilà. Hein, donc c'était et puis la Chine aussi, voilà. Donc, alors il a écrit plein d'autres romans, ou nouvelles, hein, sur la Russie aussi. J'avais trouvé une très belle histoire, voilà, russe, mais bon, c'était un peu long.
On a un format, voilà, on doit respecter.
Ça, voilà. Déjà là, on a dépassé un peu, voilà. Alors, pour finir, donc Joseph Kessel meurt d'une rupture d'anévrisme le 23 juillet 1979 à Avernes, quelques mois seulement après son épouse Michèle, qui est morte à Collioure en décembre 1980. C'était pas après, mais avant.
Mais avant, plutôt, voilà. Ouais, on aura remis dans l'ordre.
Voilà. Donc, bon, alors il a eu tout un tas hein, de décorations, de prix, voilà. Alors au total, entre 1922 et 1975, il est l'auteur quand même de plus de 80 livres, de nombreuses adaptations et de scénarios, de dialogues pour le cinéma et pour la vie de télévision, voilà.
Oui, une grande capacité d'écriture, parce que les voyages lui prenaient quand même beaucoup de son temps. Moi, je me demande toujours comment il faisait. Hein. Ça devait être tous les jours, probablement.
Oui. Il devait toujours avoir sa valise prête à partir. Bien, bon, on va vous souhaiter de bonnes vacances à vous. Alors, voilà. Je ne sais pas où vous allez.
Des voyages peut-être pas si lointains, voilà. mais parfois. Voilà. Je crois qu'il a. Alors, je n'ai pas la citation exacte, mais il disait aussi qu'on pouvait voyager en restant tout près de chez soi. Donc, c'est étonnant de sa part, mais il y a une phrase dans ce goût-là.
Bien, alors, bonnes vacances à tous et à la rentrée alors, prochaine.
La rentrée, on ne dit même pas ce que ce sera, hein, on verra.
Non, voilà.
Une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
Actif. Une rediff quoi.
Bonjour à tous, c'est midi 30 sur Principe Actif et vous avez rendez-vous avec l'émission Biblio plus l'émission des médiathèques municipales d'Évreux en partenariat et en coproduction avec la radio Principe Actif. Et nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver avec Nadège à mes côtés. Bonjour Nadège.
Bonjour Fred.
Avec également JC aux commandes. Salut JC.
Bonjour Frédéric.
Et ensemble, eh bien, on va passer une petite heure sur cette pause méridienne pour profiter cette chaleur, de ce dôme de chaleur que tout le monde subit sur l'Hexagone depuis quelques jours et qui s'installe. Mais on va vous aider à mieux en profiter avec un programme estival très riche, coloré, qui sent bon l'été. JC, tu voulais dire ?
Bah, c'est une invitation à ralentir tout simplement.
On va ralentir.
Cette température écrasante. Une invitation à ralentir.
Hein, au son de musique traditionnelle qui sent très bon l'été, eh bien, on aura pas mal de choses à vous proposer puisque vous en doutez sûrement, c'est avec ce week-end autour des fêtes de la musique, eh bien, nous, on aura une belle page musicale. Donc, on va détailler le programme d'ailleurs, comme à chaque fois. Donc, on commencera en première partie avec les temps forts du réseau des médiathèques consacré à la partie médiation et programmation du réseau des médiathèques. On poursuivra dans un deuxième temps, Nadège, avec
nos invités aujourd'hui. Laura Vermont et Denis Leplat viendront nous parler d'un programme de ciné d'été. Je ne vous en dis pas plus.
Voilà, toujours dans l'esprit estival. Et puis, troisième et dernière partie de cette émission de fin de saison, avant l'été, avec la troisième partie dédiée au coup de cœur. Ce sera Laurent qui s'y colle, qui viendra, qui nous expliquera, qui nous fera découvrir son coup de cœur country légende. Au cœur de la country, pardon, légende et phénomène, aux éditions Cherche Midi de Clovis Gou. Il viendra en même temps nous parler des jeudis juin, puisque cet auteur, Clovis Gou, sera présent jeudi prochain. Mais ça, on en viendra en détail au cours de l'émission. Et donc, Laurent, eh bien, on le retrouvera dans le cadre d'un échange qu'on a mené, lui et moi, au sein de la médiathèque Roland Plaisance. Voilà. Et puis, on terminera avec l'agenda des rendez-vous à ne pas rater. Voilà pour cette dernière émission de saison et on commence avec, comme à l'accoutumée, notre lecture.
Les castors avaient été les premiers à fréquenter Jamaica Avenue, ou du moins son futur tracé, son sillon avant qu'elle ne devienne une des principales artères de Queens. Frétillant parmi les lourdes voitures américaines, la minuscule Fiat rouge de Catherine Suzanne Genovese, dite Kitty, avait précisément l'air d'un de ces castors nageant au milieu des troncs d'arbres. D'autant que son avertisseur enroué imitait à s'y méprendre le cri plaintif du petit animal. En même temps que les rongeurs, s'était installée une tribu d'Algonquins, les Indiens Yameco, d'où venait le nom de Jamaïca, chasseurs de castors. Bientôt suivis par des colons anglais et quelques égarés français, tous avides de faire commerce des peaux et de l'huile des castors. En 1880, Jamaïca était devenue la vraie rue d'une vraie ville. Elle s'était dotée d'un tramway, de 7 boulangers, 3 médecins, 2 policiers et de 21 baraques qui vendaient de l'alcool. La rue avait continué à s'élargir. Elle avait acquis le statut d'avenue, avec un terre-plein central et des grappes de feux de signalisation, avec aussi des accidents plus fréquents, plus graves, ce qui avait contribué à multiplier le nombre de flics, de médecins et de funérariums. Les familles endeuillées appréciant l'alcool pour anesthésier leur chagrin, le nombre des magasins de spiritueux avait alors sensiblement augmenté et la délinquance avec eux. Puis, peu ou prou, à l'époque où l'Amérique avait élu Kennedy, un processus de désertification économique, d'autant plus difficile à enrayer qu'il était inexplicable, avait commencé à ronger Jamaïca. Les chaînes de magasins, de restaurants, de cinémas avaient fermé ou émigré les unes après les autres. Avec ses vitrines badigeonnées au blanc d'Espagne, l'avenue s'était alors donnée des allures de ville givrée, figée comme après le passage d'un blizzard. Les boutiques vides avaient tout de même fini par trouver des repreneurs en la personne d'importateurs de vêtements bariolés conçus pour séduire une clientèle majoritairement hispano et noire. Entre Sufton et Boulevard et la 169e rue, de graciles petites vendeuses indo-pakistanaises ou portoricaines effacèrent le blanc d'Espagne, les vitrines retrouvèrent leur transparence et les couleurs violentes des jupes et des chemisiers à volant se reflétèrent sur les mares qui, après chaque averse, remplissaient les fondrières de la chaussée et les crevasses des trottoirs. Somewhere over the rainbow, troubles met like lemon drops, chantait à tue-tête Catherine Kitty Genovese en zigzagant sur l'avenue.
Est-ce ainsi que les femmes meurent, Didier Decoing aux éditions Grasset.
Yeah.
À l'instant, vous venez d'écouter le titre Kaftit Bardin d'Acid Arab avec Sheba Itsem, la dernière sortie d'aujourd'hui même, leur album, leur quatrième, Résonance, un mélange d'électro et de musique traditionnelle. On vous le recommande, l'album sent bon l'été et ça va danser. Et donc, nous commençons avec les temps forts de la programmation et des médiations du réseau des médiathèques pour donc cette dernière émission de saison. Et on commence par la partie programmation, c'est-à-dire que demain, vous pourrez donc à la médiathèque Roland Plaisance, dans le cadre des conférences proposées par la SLE, la Société Libre de l'Heure, assister à la deuxième partie de la thématique déroulement de la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. C'est à 14h15 et donc cette deuxième partie détaillera les événements de l'année 1871, de la pression croissante due à la présence de plus en plus fréquente des troupes dans la ville avant l'occupation permanente par l'armée allemande, en passant par la disparition des communications de toutes sortes au cours de la première quinzaine de février et les difficultés relationnelles avec la mise en place de l'administration allemande, avec ses exigences de réquisition et d'impôts. Sera évoqué également le problème de la réalisation locale des élections législatives du 8 février décrétées par l'Assemblée nationale jusqu'au lent retour à la normale à partir du retrait de l'occupant allemand le 9 mars et la répercussion de la Commune de Paris sur la vie de la cité et les communications en avril-mai. Donc vous l'avez compris, programme bien chargé pour cette deuxième partie qu'on vous recommande, proposée par la Société Libre de l'Heure. C'est demain à 14h15 à la médiathèque Roland Plaisance pour cette conférence.
Et puis le jeudi 25 juin à 18h30, vous pourrez retrouver une rencontre échange avec Clovis Gou en partenariat avec le Cube et dans le cadre de leur jeudi juin, donc quatrième volet de la série des jeudis juin 2026. Cet échange rencontre aura lieu donc là-bas au Cube dans une soirée spéciale country sur laquelle reviendra Laurent tout à l'heure puisqu'il interviendra lui-même auprès de Clovis Gou lors de ce début de soirée de jeudi juin, hashtag 4. Il nous en parlera donc dans la troisième partie de notre émission consacrée au coup de cœur avec le livre de Clovis Gou qu'il nous évoquera. Nous vous invitons donc à rester avec nous car on précisera également l'ensemble du programme de cette soirée proposée chez notre partenaire Le Cube.
Et puis, troisième partie de cette programmation riche qui nous attend tout au long de l'été, les ciné-plénaires qui auront lieu du 10 juillet au 28 août. Donc ce volet dédié à la programmation aura lieu, donc sera détaillé et proposé donc dans les différents quartiers d'Évreux. On en parlera en deuxième partie d'émission, puisque nous recevrons tout à l'heure Laura Vermont et Denis Leplat qui vont venir en détail nous parler de cette très belle programmation.
Et puis week-end de musique avec la fête de la musique, un week-end très festif qui nous attend. Les petits déj musicaux ce samedi 20 juin à 10h30 vous attendent également à Roland Plaisance. Laurent et Frédéric au programme comme à chaque fois vous proposeront un temps d'échange de décryptage de l'actualité musicale sous toutes ses formes, sortie d'albums, réédition de disques, programmation de concerts ou de festivals sur notre territoire ou en périphérie. Et vous êtes également invité, si vous le souhaitez, à venir présenter et échanger vos propres coups de cœur dans un esprit convivial autour de boissons chaudes ou fraîches, peut-être cette semaine, Fred, et viennoiseries. Et demain, donc ce samedi, on évoquera bien sûr la fête de la musique, les festivals d'été et plein d'autres surprises. Donc rendez-vous à 10h30 ce samedi à la médiathèque Roland Plaisance.
Et puis on poursuit donc le vendredi 26 juin, donc de 16h à 18h, avec les après-midi jeux et à partir de 19h, les soirées après-jeux. Tout ça, ça aura lieu à la médiathèque de Navarre. Pour les après-jeux, c'est à destination des 3-6 ans. Nos collègues de Navarre, accompagnés de notre ludothécaire Frédéric, vous accompagneront pour ces moments 100% jeux, destinés donc aux plus jeunes, et partageront une sélection adaptée à leur âge pour ainsi s'amuser, rire, profiter de quasiment ce dernier week-end avant l'arrivée des grandes vacances la semaine suivante. Pour la soirée jeu, ce sera à partir de 7 ans, comme je le disais, à 19h, sur le même principe de découverte. Vous participerez seul, en famille ou entre amis, débutants ou confirmés, en compagnie de Frédéric et de l'équipe de Navarre, à cet esprit collectif de jeu où Frédéric vous proposera ses meilleurs conseils et ses plus grandes stratégies de jeu. Voilà, pour valoriser les dernières nouveautés des collections jeux.
Et puis, pour poursuivre sur le week-end avec le samedi 27 juin, deux autres propositions à la médiathèque de notre ville. Un café littéraire à 10h30 le 27 juin, proposé par vos bibliothécaires de notre ville qui reviendront autour de café et boissons, bon, bah, chaude ou froide, j'ai pas encore la météo du 27, mais je pense qu'il fera bon, sur leur dernier coup de cœur, avec également des sélections de livres pour que vous puissiez aussi faire le plein de bonnes idées de lecture et bien profiter de l'été, que vous partiez ou non en vacances. Et vous serez également invité, si vous le désirez, à partager vos dernières lectures et autres suggestions. Et dans la seconde partie de cette journée, donc toujours le 27 à 14h à Netreville, vous pourrez retrouver une thématique autour de être parent à l'ère du numérique avec Ophélie, médiatrice numérique, qui vous proposera un atelier pour accompagner son ado sur les réseaux. L'occasion de passer en revue tout un ensemble de sujets, de mieux aborder et maîtriser avec ses enfants le temps d'écran, les fake news, le harcèlement en ligne, la socialisation sur et avec les réseaux sociaux. Elle vous invite aussi à échanger sur ces questions qui peuvent générer des inquiétudes et vous pouvez venir avec vos enfants. Nous leur proposons aussi des activités pendant ce temps d'échange.
On continue avec la période des grandes vacances, là, avec le village du sport, et de la culture, du 18 juillet au 9 août. C'est la chaleur qui me fait un petit peu bafouiller. Donc comme chaque année, vous pourrez retrouver une partie de nos collègues médiateurs dans le cadre de ce village du sport qui se tiendra sur le site du parc de Trangis. Et puis vous pourrez donc notamment découvrir les ateliers premiers pas dans l'art contemporain et découvrir donc cette forme de médiation qui s'adresse aux enfants entre 4 et 6 ans qui vont